Voilà. Hier, nous avons posé la question, il a été posé la question de savoir, et dans les derniers temps, l'unité, l'union, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Alors, je vous propose, pour commencer maintenant, de lire un texte qui évoque cela, un texte de la parole de Dieu. Ça ne vous surprend pas énormément. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 10 à 18. 2 Pierre 3, versets 10 à 18. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne veut pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Oui, ben donc c'est la troisième fois. C'est pour moi le moment de conclure, le moment de devenir et de rester pratique, le moment de se rapprocher de vos préoccupations pour que ce que vous avez reçu dans ce week-end prenne racine dans votre lundi et vous accompagne au cours des temps qui viennent. Après un plaidoyer pour une cause dont nous avons vu qu'elle était gagnée d'avance, cette cause étant celle du « un », du « être un » des croyants, nous avons considéré les ombres qui pouvaient peser sur ce « un » et qui en faisaient tristement un pluriel. Nous avons considéré que ces ombres obscures étaient les nôtres, les ombres que sont nos limites. N'imposons pas nos limites à nos relations, nos limites étant aussi le contour de nos peurs. Tranquille, assumons tous ces points d'interrogation non suivis de réponses. Nous savons tout. Nous savons tout ce que nous pouvons savoir. Nous savons la vérité. Mais il y a plus. Et ce plus n'est pas une menace, car il relève de la nature même de Dieu. Cette immensité qui nous dépasse sans nous écraser. Nul n'a jamais vu Dieu. Dieu est trop grand pour rentrer dans aucun champ de vision. Unité, donc. Unité en attendant son retour. Unité à découvrir et à vivre. Unité à conserver. Mais, car il y a un mais, non pas une limite, non pas une limite à considérer, juste une question de bord. Le bord de ce un inscrit selon les termes de la nouvelle alliance dans nos cœurs. Alors nous sommes dans ce monde, et vous en avez devant les yeux, depuis le début du fonctionnement de cette salle, nous sommes familiers avec les images numériques. Nous les manipulons avec des gestes qui sont devenus automatiques. En particulier, nous savons utiliser le zoom, cette lentille grossissante toujours disponible. Alors voici donc un détail trop petit. Nous n'arrivons pas à le distinguer suffisamment. Alors nous le grossissons, nous zoomons un peu plus. Allez oui, encore un peu plus. On va bientôt voir, comprendre, encore un peu plus grand. Mince, on n'y voit plus rien. L'écran est maintenant couvert de petits carrés, de formes. Les formes et les couleurs se confondent. On dit que l'image pixelise. Les bords et le fond se confondent. Grossir est devenu un principe de flou, de floutage. Tout ça parce que la définition de l'image n'est pas suffisante. L'unité des chrétiens ne souffre pas de cette limite, de ce défaut. Elle peut être considérée dans ses moindres détails. Elle est toujours nette, claire. Le bord qui lui est donné est toujours un trait évident. Dussé-je froisser l'un ou l'autre ? Il y a un dehors et un dedans, un contour. Les choses sont nettes, toujours nettes. On peut grandir, on peut zoomer à l'infini sur l'écran de nos vies, le bord sera toujours net, défini, précis. J'ai évoqué tout à l'heure nos peurs qui catalysent nos divisions et font des aberrations palpables. Ce bord net et précis du 1 est un, j'ai employé un mot, mais je vais l'ôter tout de suite, est un mur qui nous protège. Il y a un dedans et un dehors. Nous sommes dedans. La tempête peut souffler. Nous ne serons jamais emportés par tous les vents de doctrine. Notre monde essaie d'appliquer ce principe de netteté en construisant lui aussi des murs. L'Europe a été pendant 30 ans divisée par un mur qui devait servir de bord et qui finalement est tombé parce que l'histoire bégaye et que les hommes n'ont pas de mémoire. C'est l'Amérique qui s'apprête maintenant à construire un mur. Un mur, ce n'est pas une solution pour construire un bord. À peine fini, on se rend compte à quel point il gêne. Le bord net et précis du un de Dieu n'est pas un mur. Et nous devons bien nous garder de tenter d'en construire un. C'est tout le sens de mon intervention ces 3 jours ici. Ce bord net du un de Dieu est un bord défini dans une matière fantastique. Le Gore-Tex. Vous savez ce textile dans lequel sont faits nos meilleurs anoraks, nos bonnes chaussures. Ce textile dit respirant. Dans un sens, l'humidité peut passer, dans l'autre, elle est bloquée. le un de Dieu, net et précis, n'est pas une frontière infranchissable. Il ne fait pas de ce un château fort. Ce bord est un principe de netteté, pas un principe d'exclusion. Il y a de la place. Il y a de la place dans le un de Dieu et tous peuvent y rentrer. Mais quand on y rentre, on sait que l'on y rentre, que l'on y est protégé, béni. Alors quelle est donc la nature, la matière de ce bord ? S'agissant de Gore-Tex, il s'agit maintenant pour moi d'enfoncer deux portes ouvertes. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'exhortation que nous avons lue tout à l'heure. Il n'y a donc qu'une seule façon d'entrer dans le un de Dieu. Connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ et croître, grandir fort de cette connaissance. Parce qu'il fait partie du un de Dieu, Jésus est unique. Il ne peut être confondu, assimilé. Il a aussi un bord net et précis qui le définit tout entier. Jésus est né de la Vierge Marie et Jésus est ressuscité le troisième jour. Le commencement et la fin. Le bord de l'existence terrestre de Jésus. Jésus, un homme, Jésus, le Verbe incarné. Mais il existe entre deux miracles. Si l'on enlève l'un ou l'autre, ce n'est plus le même Jésus. Ce n'est plus Jésus. Alors, son sacrifice, le sacrifice de la croix, n'aurait plus de sens. Retenons pour la texture, la trame de cette matière fantastique qui détermine le un de Dieu, la formulation du symbole des apôtres. Il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate et il est ressuscité le troisième jour. Net, clair, la trame du bord du un de Dieu. Mais tout textile, aussi extraordinaire soit-il, est composé de deux éléments distincts et pourtant intimement fusionnels. Il y a la trame, et nous venons de voir sa nature, mais il y a aussi la chaîne autour de laquelle la trame est disposée de façon absolument inextricable. Alors la nature de la chaîne de ce divin Gore-Tex nous est précisée. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. La chaîne, c'est donc cette Écriture qui nous est donnée pour que nous puissions connaître Dieu, ce qui nous en est connaissable, nous avons vu ça, la parole de Dieu. Et il nous est dit que c'est difficile à comprendre. Nous avons effleuré cela hier, et cette difficulté n'est pas organisation de l'obscurantisme, juste la manifestation de nos limites face à la grandeur de Dieu qui nous aime. Ne pas tordre, ne pas abîmer, ne pas déformer. Apprendre donc avec le plus grand respect. Avec ce livre, nous avons dans nos mains plus que ce qu'elles peuvent contenir. Nous avons la référence absolue, une référence, on n'y touche pas. Sinon, ce n'est plus une référence. Une référence, on la consulte, on la sonde, on s'y conforme, Ainsi, elle tient son rôle. Mais seulement ainsi. Sola Scriptura, proclamait Luther en 1521. L'Écriture seule. Mais l'Écriture entière. L'Écriture droite, pas triturée, pas tordue. L'Écriture. Ainsi est donc définie chaîne et trame, l'enveloppe, le bord du un de Dieu. Nous avons posé vendredi l'existence de ce un comme incontournable. Nous avons ensuite considéré des limites qui ne sont que les nôtres et qui ne doivent pas être celles de ce un. Aujourd'hui, nous avons considéré le bord clair et net de ce un. Trois jours donc à réinventer l'Église universelle. Pas plus, pas moins. Et toujours cet ordre. Au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Quel pas avons-nous fait ensemble? Je ne sais pas s'il est grand ou s'il est petit, mais je sais que maintenant, nous avons en nous les moyens d'obéir à cet ordre. Nous pouvons enfin le recevoir et assumer le chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Allons en lire quelques versets. Romains 14, 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Chapitre 14, toujours, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais plutôt pensez à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Dans la douce et protectrice enveloppe du un de Dieu, nous avons une responsabilité. Tels que nous sommes, nous y sommes entrés avec nos forces, car nous avons des forces, mais aussi avec nos faiblesses. Et nos faiblesses causent problèmes, divisions. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire du statu quo. Paul nous suggère une démarche. Et cela commence par un petit mot, un verbe. Accueillir. Accueillir doit rester un geste simple. N'oublions jamais que cet accueil n'a de sens et d'usage que dans le cadre du un de Dieu, dans la limite de la trame Jésus-Christ et de la chaîne Parole de Dieu. Dans ce cadre, l'accueil est sans condition, sans discussion, est-il précisé. Ensuite, nous ne sommes pas les gardiens de nos frères. Nous ne sommes pas concernés par l'esprit de Caïn. Mon frère, mon semblable, pourtant tellement différent, d'autant plus différent peut-être qu'il porte le nom d'un autre groupe de frères. Mon frère, donc, est serviteur, serviteur comme moi du Dieu vivant. Il a la loi de Dieu inscrite dans son cœur. Il ne la comprend pas de la même façon. Et de plus, je ne sais pas faire la différence. Je ne sais pas faire la différence entre son refus d'obéir, peut-être, qui tient au péché, et la différence de compréhension qu'il en a. Mais je ne suis pas son juge. Alors je répète cette phrase, car il conviendrait que nous la sachions par cœur. Il conviendrait qu'elle commande nos réflexes de chrétiens selon les lois de Pavlov. Je ne suis pas son juge. Je ne suis pas son juge. je ne suis pas son juge. C'est bon ? C'est entré ? Allez, un petit coup quand même encore, pour plus de sûreté. Je ne suis pas son juge. Pilate ne voulait pas être le juge de Jésus. Alors il s'en est lavé les mains. Et d'autres ont jugé. Ce n'est pas bien beau et ce n'est pas ce qui nous est proposé. Je ne suis pas son juge, mais je ne m'en lave pas les mains. Je ne le laisse pas se débrouiller. Je ne suis pas son juge, mais j'ai quand même une responsabilité. Et cette responsabilité, je dois l'assumer. Il se tiendra debout. Il tiendra debout d'autant mieux si moi, je suis debout à ses côtés. Un avec lui. Il n'y a qu'une alternative à cette proposition. Si je ne suis pas debout, moi aussi, c'est que je suis devenu une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Vraiment, si je veux que mon frère reste debout, et je dois le vouloir, la meilleure solution, c'est que je veille moi-même à rester debout, à côté de lui. Un. Si je ne suis pas debout, il va buter sur moi, il va chuter. Et même si mon aveuglement me confie alors dans l'orgueil, ce sera moi la cause de sa chute. Moi, le responsable. Moi, responsable de l'existence ou de la non-existence du un de Dieu. La boucle est bouclée. La parole est donnée. Vanité des vanités, tout est vanité. Il ne reste plus que la prière. Seigneur, Seigneur, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur de ce que tu nous révèles aujourd'hui. Merci de ce que tu nous rappelles aujourd'hui. Merci de ce que tu nous demandes de vivre aujourd'hui. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes la force de vivre ce que tu nous demandes. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour ce que tu as construit, pour ce qui est issu de ton sacrifice. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir de cette Église dans laquelle nous vivons. Seigneur, nous voulons te bénir de ce local qu'il abrite aujourd'hui. Mais Seigneur, cette église dépasse de partout. Seigneur, elle est grande, immense, répandue à la surface de la terre. Seigneur, donne-nous la conscience de cette immensité. Donne-nous la conscience de ce un immense que tu as créé, que tu as voulu. Merci Seigneur de nous accompagner et de nous donner de vivre cela dans la plénitude de ta présence, dans la plénitude de ton amour. Oui, Seigneur, c'est ton amour qui nous unit et nous voulons le vivre pleinement. Seigneur, accompagne-nous et bénis-nous. Bénis-nous tous ensemble. Bénis-nous parce que nous sommes un en toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen.